Je veux partir de cette chance de travailler à nouveau avec l'école de littérature de la Grasse, puisque c'est l'ambition de Dominique de continuer à développer ce qu'il appelle une école de littérature. Travailler avec cette école est dans une perspective qui est nouvelle pour moi et qui est même réconciliante, j'oserais dire, sous la forme de ce programme qu'il m'a proposé et qu'il a choisi d'intituler « En lisant, en écrivant ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire donner un point de vue sur ma bibliothèque idéale, qui serait à la fois celui d'un lecteur et celui d'un auteur. Dans le sillage qui, vous vous en doutez, est impressionnant et luxueux de Gracq, en lisant, en écrivant, et plus largement, me semble-t-il, dans l'esprit de Dominique, dans le sillage de tous les auteurs qui ont su aussi se révéler de grands lecteurs. Hors lecteur, moi j'ai donc longuement appris à l'être, comme Dominique vous le disait. C'est une importante partie de mes études d'avoir tout simplement appris à lire. Mais à l'époque, je n'étais pas encore auteur. Et depuis que je suis auteur, personne ne m'avait encore demandé de redevenir lecteur. En tout cas au sens d'un interprète qui produit du discours sur ce qu'il lit. Cette variété particulière de lecteur qu'est le lecteur écrivant sur ce qu'il lit. Donc je vous cache pas, je suis assez curieux d'observer comment mon mode de lecture a évolué depuis mes années de formation à la lecture. Et puis je me sens évidemment très privilégié de disposer d'un espace qui accueille un point de vue d'auteur sur ces lectures. Aujourd'hui, ce point de vue, il va se manifester de deux façons, complémentaires, successives, à travers une proposition d'interprétation d'un chef-d'œuvre de Giono, Un roi sans divertissement, et à travers un recensement de tout ce que je dois à ce livre dans mon propre travail d'écriture. Voilà, donc je vais commencer par une lecture d'Un roi sans divertissement, une lecture inspirée de ma lecture et inspirée de la lecture d'autres lecteurs de Giono. Je crois que la première chose que j'ai à vous en dire, c'est que c'est un texte rapide. Ça va constituer une importante partie de ce que j'ai à vous en dire. Et l'autre grande entrée que je vous propose dans ma lecture d'Un roi sans divertissement, c'est la question du mal, qui n'est pas une mince question tout court et qui n'est pas une mince question en littérature. Voilà, ça ce sera les deux grands temps de cette proposition de lecture du roi sans divertissement, et ensuite je vous expliquerai un peu plus en détail tout ce que je dois à ce livre dans mon propre travail, quoi. Donc un texte rapide. Un roi sans divertissement, c'est un texte qui se bouffe, comme on dit. Et ça n'est qu'à moitié une blague, puisque dans les manuscrits préparatoires à l'œuvre qu'il a proposée à Gallimard, Giono avait sous-titré Un roi sans divertissement « Opéra bouffe ». Un texte qui se bouffe, donc. Et il se trouve que cette expérience de lecteur, qu'on recueille fréquemment hein, quand on demande aux gens qui ont lu ce bouquin de Giono comment ils l'ont lu. Donc cette expérience rapide, elle semble avoir été comme préparée par celle de l'auteur, par l'expérience de l'auteur. Puisque, apparemment, mais Giono est un fief et menteur, la période d'écriture s'étale sur un petit mois et demi. Ce sont les derniers mots du texte. Hein. Manosque, 1er septembre, 10 octobre 1946. Donc, un mois et 10 jours, voilà, pour produire ça. Cette production, justement, elle prend place dans un moment de la vie de Giono qui explique pour partie une telle intensité et qui entretient des rapports très riches avec le contenu de l'ouvrage. 1946, c'est une année spéciale pour Giono, j'y reviendrai. C'est pas là-dessus que je vais m'étendre pour l'instant. On peut retenir ça, Giono écrit à toute vitesse. Et il n'écrit pas un seul roman, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il en écrit trois. Trois romans en un. Un texte rapide, trois romans en un. Il est tellement fluide, ce roi sans divertissement, qu'il défie d'abord l'analyse. On le reçoit comme une sorte de coulée. Une coulée continue. On n'aperçoit pas de couture. Mais à bien y regarder, cette fluidité, elle est encore plus impressionnante lorsqu'on réalise qu'effectivement, Giono tisse ensemble trois petits romans successifs. Je donne la pagination de l'édition Folio pour ceux qui voudraient se reporter au texte. Premier roman dans le roman, un polar rural, page 9 à 86. Voilà, moins de 80 pages, hop, un polar rural. Puis une partie de chasse, page 86-144. Et dernier grand temps, une sorte d'errance métaphysique qui mène le héros au suicide, page 144-244. Soit les 100 dernières pages. Bon, bien sûr, ces trois moments, quand je vous parle de trois petits romans, je veux pas dire qu'il s'agit de trois textes autonomes, comme le seraient des nouvelles. Ils sont structurés en une seule et même intrigue qui file autour du personnage central de Langlois. Langlois, en un seul mot, donc L-A-N-G-L-O-I-S. Sur un schéma narratif continu qui est assez cher à Giono, une figure d'étranger, d'où peut-être ce Langlois, c'est-à-dire l'anglais. On disait les Anglois pour dire les Anglais dans une langue qu'on a oubliée. Un étranger qui débarque dans une communauté villageoise dont il modifie l'équilibre. Un roi sans divertissement, ça pourrait se résumer à ça. Ce schéma, Giono l'a déjà utilisé dans Prélude de Pan, une nouvelle qui a été rassemblée dans le recueil Solitude de la pitié, une nouvelle formidable. Et plus tard dans Le Moulin de Pologne, qui fait partie du même ensemble de chroniques qu'un roi sans divertissement. Et d'une certaine façon, c'est aussi le schéma du hussard sur le toit. Pour un roi sans divertissement, la communauté dérangée par un étranger, c'est un village dans la région de Grenoble. Et le motif initial de la venue de Langlois, c'est une série de disparitions pendant les deux hivers 1843 et 1844. À ce moment-là, Langlois intervient comme capitaine de gendarmerie. Il vient protéger la communauté des méfaits de cette personne qui enlève des hommes et des femmes, et se transforme donc en enquêteur à la recherche du criminel. C'est ce qui fait de lui une figure qui reprend celle du roman policier, quoi. Le justicier, l'enquêteur. Ce criminel, il est identifié l'hiver suivant, donc le troisième hiver, sur 6. C'est un certain Monsieur V, qu'on ne connaît que par son initial, comme s'il s'agissait de garder son anonymat, à moins qu'il ne s'agisse de Monsieur 5, en chiffre romain, on verra. Monsieur V, qui habite un village voisin de celui qui a été donc modifié par l'arrivée de Langlois, qui s'appelle Chichiliane, qui est un village qui existe, j'ai vérifié. Langlois l'élimine de 2 balles dans le ventre et démissionne mystérieusement en faisant passer cette exécution pour un accident. C'est la fin du polar, moins de 100 pages. Ça y est, c'est réglé. Premier roman. Au printemps, Langlois revient s'installer au village sans raison apparente, puisque le mal est écarté. On apprend rapidement qu'il a été nommé commandant de Louvetterie, donc pour les gens qui ne seraient pas familiers de cette fonction, c'est un rôle de régulateur du gibier, mais un rôle prestigieux, encore aujourd'hui. À l'époque, 1845 donc, on était nommé commandant de Louvetterie par le procureur royal. Et il se trouve que Langlois semble être un ami du procureur royal, qu'il fait même venir dans ce village reculé du Diwa. Et l'hiver suivant, comme par voie de conséquence, le justicier a été nommé, le criminel arrive, un énorme loup dessine des troupeaux et menace même les hommes. Langlois organise alors une battue, comme un metteur en scène qui montrait une pièce. La métaphore théâtrale est filée hein, tout cet hiver-là. Et il abat le monstre dans la nuit de 2 balles dans le ventre, ce qui rejoue exactement la première exécution. Explicitement, page 144. Ainsi donc, tout ça pour en arriver encore une fois à ces 2 coups de pistolet tirés à la diable, après un petit conciliabule muet entre l'expéditeur et l'encaisseur de mort subite. Point d'exclamation. Deuxième roman terminé, il reste encore 100 pages. C'est d'une économie, perd pas de temps, il n'y a pas de gras. À partir de là, troisième roman, un roman, disons, philosophique, même si le terme me pose problème, j'essaierai d'y revenir. L'action devient beaucoup moins tendue, mais le style tellement elliptique que la vitesse de narration ne ralentit pas. On comprend ceci à demi-mot. Depuis l'enquête sur Monsieur V ou Monsieur 5, MV, Langlois est en proie à un mal de vivre qui gagne du terrain jusqu'à le conduire au suicide. C'est l'issue d'un roi sans divertissement. La mort du justicier. Comme souvent chez les personnages d'enquêteurs, il a dû se mettre à la place du criminel pour le comprendre, donc le trouver et l'éliminer. Mais cette empathie lui est fatale. Il existe une empathie maléfique dans un roi sans divertissement, plutôt malfaisante. Ce qu'il semble avoir compris, ce Langlois, en s'approchant petit à petit du personnage du criminel, et je dis bien ce qu'il semble parce que rien n'est clair dans le roman, c'est que Monsieur V tue pour tromper l'ennui, un ennui métaphysique, un ennui au sens fort, c'est pas juste le fait de pas savoir quoi faire, c'est un ennui qui renvoie au néant de l'existence, et cet ennui le pousse au crime au moment écrasant du cœur de l'hiver, celui où l'ennui a atteint son stade maximal, lorsque le monde offre la plus grande uniformité, l'immobilisme le plus complet, c'est-à-dire lorsqu'il est plongé dans la neige et dans le brouillard d'une région montagneuse. Giono a des pages définitives sur le niveau du brouillard qui descend jusqu'à cacher la croix au sommet de l'église. C'est-à-dire un brouillard très bas, un brouillard en lui-même oppressant, bien sûr, et puis un brouillard qui fait disparaître l'alpha et l'oméga qui orientent le monde, quoi. Il n'y a plus de croix. Il y a plus le sens religieux disparaît, quoi. Et avec lui, la géométrie qui le symbolise, quoi. Cet ennui, donc, qui est celui du criminel, contamine l'Anglois, et la technique de divertissement également. Non seulement tuer, mais tuer bellement, de façon esthétique. Et même, pour être plus précis, pictural. C'est-à-dire en peignant avec le sang des victimes sur la neige. Donc l'Anglois de justicier devient un tueur, et un tueur passionné. Un tueur d'abord légal, et donc toujours bienfaiteur, puisqu'il élimine un criminel, puis un fauve. Le criminel lorsqu'il est gendarme, le fauve lorsqu'il devient commandant du Vétri. Mais il n'est pas rassasié. Il tente d'oublier ce plaisir en rendant une visite secrète à la veuve de Monsieur V. C'est l'hiver avant son suicide. Cette femme étant une sublime dentelière dont le travail en lui-même constitue un divertissement. Puis en participant à des fêtes somptueuses, puis en se mariant, mais l'appétit de sang est trop fort. Et lorsqu'il pressent que sa pulsion risque de le conduire à un passage à l'acte, c'est finalement lui-même qui l'élimine. Il a pour rituel, à la fin de sa vie, de sortir fumer un cigare tous les soirs dans la maison qu'il a aménagée pour lui-même et sa nouvelle épouse. Et puis un soir, ce qu'il sort fumer, ça n'est pas un cigare, c'est un bâton de dynamite. Et son suicide est un suicide par explosion de la tête, quoi. Ce qui est un symbole fort. On y reviendra. Voilà. Troisième roman terminé, The End. Fini. Terminé. Et cette rapidité du texte, vous vous rendez compte de tout ce que je viens de vous raconter, c'est à peine croyable que ça tienne en si peu de pages, quoi. Cette rapidité, elle n'est pas seulement due au caractère ramassé de chaque partie, à leur brièveté, à leur caractère juxtaposé aussi, elle est surtout due à la façon de les orienter, puisque ces trois romans en un se rassemblent sous la forme d'un seul et même texte qu'on pourrait qualifier de prédateur. En effet, dans les deux premières parties, Giono s'inspire très clairement, très explicitement, du schéma du roman policier. C'est simple, un justicier poursuit un criminel, que ce criminel soit un homme ou un loup. Tout est donc tendu vers une résolution qui rend la lecture absolument haletante, comme avec n'importe quel bon polar. On a le même effet d'engloutissement, le même effet de 3 heures du matin qu'en lisant un roman policier. Mais en déplaçant ce polar de l'univers traditionnellement urbain, qui est celui du polar, vers la campagne, il me semble que Giono ne donne pas à son polar un tour exotique ou original, ou un côté bouseux, un côté cutéreux, pour utiliser des termes qui sont ceux de Giono. Je crois au contraire qu'il retrouve l'essence du roman policier, ce qu'il y a par derrière le roman policier. Le polar, c'est une intrigue de prédation. Le criminel, c'est à la fois le grand fauve et le grand gibier. C'est celui qui menace et c'est celui qu'on traque. Les deux positions sont interchangeables dans la personne du criminel. Et généralement, il finit en victime, mais c'est une victime méritée, quoi. Et voilà sans doute une des raisons pour lesquelles il serait absurde de traiter le polar a priori comme un sous-genre, comme ça a vraiment été le cas pendant très longtemps et l'interdit n'est pas levé encore, puisque le polar rejoue l'une des plus vieilles structures narratives de l'histoire de l'humanité, qui est transmise par toutes les mythologies, l'intrigue de la chasse. Et c'est même par-delà les structures narratives, une des plus fondamentales structures psycho-physiologiques de l'animal humain, celle de la prédation. C'est-à-dire un rapport entre la faim, le désir et la satiété. Et sur ce point, il m'a semblé, en travaillant pour vous faire cette lecture, que Giono rejoignait un auteur auquel on ne penserait pas nécessairement à l'associer et qui m'est cher, comme le savent déjà certains, et qui est Pascal Quignard. Effectivement, pour Quignard, la chasse est dans tous les récits, et c'est même la première métaphore de l'humanité. Et quand Quignard dit métaphore, ça n'est même pas une métaphore verbale, c'est une métaphore vécue. Une idée très forte chez Quignard. L'humanité, ce serait quoi ? Une métaphore. À savoir, des primates herbivores. Tous nos cousins grands singes supérieurs sont des herbivores, qui se transforment, c'est-à-dire se transportent, c'est-à-dire se métaphorisent, littéralement, en chasseurs, par imitation des grands fauves qu'ils admirent. La thèse de Quignard, c'est ça. On s'est mis à manger de la viande, non pas parce qu'on avait faim, on avait déjà de quoi faire pour se nourrir, on s'est mis à manger de la viande pour ressembler à des fauves, pour se métaphoriser en fauve. Citation, il me semble ramassée de cette thèse donc, dans Rhétorique spéculative, l'un des très très beaux ouvrages théoriques de Quignard, page 37-39. Ce qu'on appelle le devenir homme de certains primates fut ce lent devenir bête des proto-chasseurs. Voilà, là, il y a la thèse résumée, quoi. Les hommes se transportèrent en ceux qu'ils imitaient et qu'ils dévoraient, ours, cerfs, vautours, loups, taureaux, mammouths, bouquetins, bisons, ou dans le monde antécolombien, puma, jaguar, condor. Voilà, donc je crois que Quignard et Giono se rejoignent là-dessus, sur l'idée que derrière la littérature, il y a une intrigue de chasse qui nous poursuit dans nos structures psychophysiologiques profondes. Autrement dit, la littérature n'est pas un luxe. La littérature est une sorte de geyser de structures humaines fondamentales. Elle fait ressortir des récits, des organisations du monde qui sont les plus anciennes et les plus fondamentales. En termes psychologiques, la satiété qui advient une fois que la faim est apaisée, on peut l'appeler, en termes de psychologie pessimiste en tout cas, on peut l'appeler l'ennui. Et cette satiété requiert un désir toujours croissant pour être à nouveau assouvi, c'est-à-dire, nous dit Giono, un divertissement. L'étymologie stricte de divertissement, dit wertere, c'est ce qui détourne, ce qui écarte d'un point initial. En l'occurrence, l'ennui, le divertissement, c'est ce qui permet de se détourner de l'ennui, quoi. De ne pas tomber dans le trou, en fait. De ne pas tomber dans le trou du néant, quoi. Donc, conception pessimiste de la condition humaine que Giono emprunte à Pascal pour donner son titre à l'œuvre, puisque Un roi sans divertissement vient d'une de ses pensées fulgurantes de Pascal, le fragment 142 des pensées dans l'édition Brunswick, puisque vous savez qu'il y a plusieurs classements des pensées. Donc, fragment 142, Un roi sans divertissement est un homme plein de misère. Un roi sans divertissement est un homme plein de misère. Clôture absolue du texte de Giono, hein, là-dessus, le titre « Un roi sans divertissement », la dernière phrase, la citation exacte de Pascal. « Un roi sans divertissement est un homme plein de misère ». Qu'est-ce que ça veut dire, cet aphorisme? Puisque les aphorismes méritent souvent d'être dépliés. Même un roi, s'il n'a pas un divertissement, est un homme plein de misère. C'est ça qu'il faut comprendre, en fait. Même un roi, s'il n'a pas quelque activité qu'il détourne de l'ennui, sombre dans la noirceur. C'est un homme comme un autre. Il a son néant, de même qu'il a son être, et le divertissement lui est essentiel pour rester du côté de l'être. Évidemment, on est assez naturellement conduit à se demander si la littérature, d'après Giono, est un divertissement de ce genre. Mon expérience de lecture, que je partage avec tous ceux avec qui j'ai pu parler d'un roi sans divertissement pour l'instant, mais ça va peut-être changer aujourd'hui, c'est que l'avidité qui caractérise le chasseur, qui caractérise le fauve qui traque, ou celle du justicier qui cherche le criminel, elle se déplace dans la lecture. On bouffe un roi sans divertissement, parce qu'on plonge dans une intrigue de prédation, parce qu'on devient chasseur, en littérature. Qu'en est-il de l'expérience d'écriture de Giono? On a de la chance, il nous livre un précieux témoignage avec Noé, qui est un aveu d'écrivain produit juste dans la foulée d'un roi sans divertissement, et qui nous parle de son expérience de lecture. Noé. Il y a une citation qui est très parlante, page 17, toujours édition Folio. Donc Giono est en train de nous raconter d'une façon assez merveilleuse que lorsqu'il a écrit Un roi sans divertissement, donc pendant cette espèce de gros mois d'intensité d'écriture, il a superposé à son bureau le paysage d'Un roi sans divertissement. Donc il dit... Le café de la route se trouvait à l'angle à gauche. Sur ma carte du Mexique, c'était l'endroit où habite Monsieur V. Quand je m'allongeais sur le sofa, je mettais la tête dans le hêtre, etc. Et à l'intérieur de ce paysage, voilà ce qu'il nous dit. Dès qu'il a vu Marie Chazotte, donc une des victimes, la première, tourner le coin de mon divan, Monsieur V m'a traversé, comme il le faisait chaque fois, aller et retour, c'était sa route, a coïncidé avec moi le temps d'un éclair, il n'y avait que le petit geste que j'étais obligé de faire pour écrire qui dépassait un peu, et il s'est précipité sur Marie Chazotte. Bon, évidemment, qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans ? C'est qu'il y a une superposition entre le criminel et l'auteur. Bon, sauf à l'exception d'une chose, c'est que l'auteur est en train d'écrire. La seule chose qui dépasse, c'est le geste d'écriture. Bon, évidemment, ce que veut nous dire Giono, je crois, c'est que la création littéraire, c'est ce qui l'empêche de devenir un criminel. C'est-à-dire un homme comme les autres. Puisque pour Giono, la pulsion prédatrice est une définition de l'être humain, quoi. Giono, c'est un homme qui divertit son lecteur et qui se divertit en écrivant. Bon, cette phrase de Giono, cet aveu de superposition quasi entre le prédateur et l'auteur, c'est aussi une phrase qu'il faut entendre, je crois, à la lumière du parcours de pacifiste, parfois suspect de collaborationnisme d'ailleurs, qui est celui de Giono. Giono nous dit « Je suis allittéraire, c'est-à-dire pas un tueur, c'est-à-dire pas un guerrier. » Et on mesure là, je crois, aussi le tournant moral qui a été pris par Giono depuis les premières années très lyriques de sa carrière, pour lesquelles il est souvent connu d'ailleurs, et dont l'expérience de la violence politique a émoussé l'enthousiasme. Ce que nous dit Giono, je crois, c'est « Je ne suis même pas pacifiste par grandeur d'âme, mais parce que j'ai trouvé un autre divertissement que le carnage. » Et ce divertissement s'appelle la littérature. On pourrait presque trouver ça cynique. Je ne crois pas que Giono n'arrive jamais là et je m'en expliquerai autour de la question du mal. L'autre grande technique d'écriture qu'utilise Giono pour gagner en vitesse, pour fuser dans l'écriture d'un roman sans divertissement, ça n'est donc pas seulement ces schémas de prédation. Il oriente systématiquement le lecteur vers la résolution d'une énigme, c'est-à-dire vers la saisie d'une proie. L'autre technique qu'il utilise, c'est l'ellipse. Et il l'utilise de deux façons. C'est une ellipse généralisée. Un roi sans divertissement peut paraître être un texte difficile. En fait, c'est pas un texte difficile parce qu'il est écrit de façon compliquée, c'est parce qu'il est écrit de façon elliptique. C'est parce qu'on a l'impression qu'il y a des trous. Le titre annonce d'emblée cette technique de l'ellipse, puisqu'il raccourcit une formule qui est déjà brève et condensée, un aphorisme. Un roi sans divertissement est un homme plein de misère. C'est pas exactement une formule grasse. Il y a une tension dans cette phrase qui est celle des aphorismes, quoi. Et que fait Giono ? Paf, il coupe. Il en enlève. Un roi sans divertissement. Voilà, première ellipse. Ça n'est pas la seule référence littéraire à être cryptée, abrégée. Il y en a plusieurs, et elles semblent toutes donner des clés d'interprétation à la fois cruciales et trop rapides, ces références littéraires. Giono nous dit, regardez, ça c'est important, hop, et il l'enlève. La référence la plus manifeste et capitale, c'est celle qui est faite au Perceval de Chrétien de Troyes et qui court à travers tout le texte. Effectivement, le texte de Giono ne cesse de rejouer cette vision du sang sur la neige, vision esthétique du sang sur la neige, qui est le principal appât du criminel pour commettre ses crimes. Ce que veut le criminel, c'est voir du sang sur la neige. Et ce motif, Giono le trouve dans le Perceval. Je vous lis un extrait de l'édition bouquin du Perceval, dans la matière de Bretagne. Bon, il y aurait beaucoup à dire sur Perceval. Le voilà qui court la campagne, et Chrétien nous dit « Mais il n'est pas encore à la hauteur des tentes. » Il va voir le roi, en fait, il va voir Arthur. « Qu'il aperçoit et entend un vol bruyant d'oies sauvages. » Éblouie par le reflet de la neige, elle fuyait en tumulte devant un faucon rapide qui fend l'air pour les rattraper. Enfin, l'une d'elles, séparée des autres, s'égare et s'offre à lui sans défense. Il la heurte et malmène si rudement qu'il la bat à terre. Prédation, donc. Mais l'heure était trop matinale pour le faucon qui dédaigne de se joindre et s'attacher à sa proie. Ça, je comprends pas trop, mais bon, il semblerait que les faucons ne mangent pas toutes les heures. Perceval accourt, là où il a vu la bande tournoyer. Loi était blessée au col. Elle saigne 3 gouttes de sang qui s'épandent sur le blanc de la neige. On eût dit une couleur naturelle. Mais elle n'était pas assez touchée pour rester collée au sol, et avant que Perceval pût la saisir, elle était déjà loin. Quand il vit la neige tassée à l'endroit et le sang tout autour, il s'appuya sur sa lance pour regarder cette apparence étrange. Le sang et la neige ainsi rapprochés lui rappellent les vives couleurs de Blanchefleur, son ami. Il y pense si volontiers qu'il oublie où il est. Comme en la face de son ami, le vermeil ressortait sur le blanc. Ainsi, les 3 gouttes de sang se détachent sur la blancheur de la neige. Et l'idée lui plaît tant qu'à force de regarder, il croit bien vraiment contempler le teint si frais de son ami, la belle. Voilà, et pendant ce temps-là, le roi Arthur l'attend. Il vient pas, quoi. Il plonge dans... Au lieu d'aller vers l'impératif mondain, le protocole du bon chevalier, etc., il plonge dans une sorte d'hypnose, quoi. Contemplative. Qu'est-ce que ça donne chez Giono ? C'est... Bon, je vous donne un extrait parmi d'autres, hein, puisque c'est une métaphore, un motif qui parcourt le roman. Langlois, juste avant de fumer sa dynamite, tente une dernière chose. Il va demander une oie à une villageoise et il lui dit de l'égorger, quoi. Et puis il la tient par les pattes, il la regarde saigner, il a cette fascination, et puis il s'en va. Et voilà ce que ça donne quand les villageois viennent demander à cette personne qui s'appelle Anselmi ce qui s'est passé. Bon, c'est une taiseuse, hein, comme tous les villageois des romans de Giono. On va voir, c'est important, ça, et donc il faut la forcer pour qu'elle parle. Mais parle, et on la bouscule. « Vous m'ennuyez à la fin, » dit-elle. « Je vous dis que c'est tout. » Si je vous dis que c'est tout, c'est que c'est tout, nom de nom. Il m'a dit « Donne ». J'y ai donné loi. Il l'a tenue par les pattes. Eh bien, il l'a regardée saigner dans la neige. Quand elle a eu saigné un moment, il me l'a rendue. Il m'a dit « Tiens, la voilà, et va-t'en ». Et je suis rentré avec loi. Et je me suis dit « Il veut sans doute que tu la plumes ». Alors, je me suis mise à la plumer. Quand elle a été plumée, j'ai regardé. Il était toujours au même endroit, planté. Il regardait à ses pieds le sang de l'oie. J'y ai dit « Les plumer, monsieur Langlois ». Il ne m'a pas répondu et n'a pas bougé. Je me suis dit « Il n'est pas sourd, il t'a entendu. Quand il la voudra, il viendra la chercher. » Et j'ai fait ma soupe. Est venu 5 heures, la nuit tombait. Je sors prendre du bois. Il était toujours là au même endroit. J'y ai de nouveau dit « Les plumer, monsieur Langlois. Vous pouvez la prendre. » Il n'a pas bougé. Alors je suis rentré chercher l'oie pour la lui porter, mais quand je suis sorti, il était parti. Vous pouvez mesurer le parcours sur 7 siècles entre les deux versions. Ce qui donne une version concaténée aussi à un autre endroit, version beaucoup plus cryptique, à la fois plus explicite et... Enfin voilà, dans cette rhétorique de l'ellipse dont j'essaie de vous parler. Voilà ce que nous dit Giono, page 25. Je pense à Perceval hypnotisé, endormi, point virgule. Opium, quoi ? Tabac, aspirine du siècle de l'aviateur bourgeois, hypnotisé par le sang des oies sauvages sur la neige. Une phrase. Avec un point virgule, 3 points d'interrogation. Bon, il nous explique pas, quoi, en fait. Il fait voir des visions, c'est presque un truc surréaliste, quoi, à ce moment-là. Et puis, il passe à autre chose. Donc c'est la référence la plus suivie du texte à un autre texte. Mais vous voyez, même s'il la répète, elle n'est pas complètement claire, quoi. Qu'est-ce qu'il veut nous dire exactement ? C'est quoi cet aviateur bourgeois ? Il va pas au bout, quoi. Il fait pas de la philosophie. C'est la même chose dans le traitement d'autres références, et particulièrement celle qui est assez appuyée, mais qui reste obscure, à Sylvie. Un texte court, une sorte de nouvelle de Gérard de Nerval. Au tout début de l'histoire, le narrateur, qui ressemble beaucoup à Giono, nous dit, voilà, des V, il y en a encore. Ça l'intéresse, puisque il trace des lignées dans son texte. Ça s'appelle un roi sans divertissement, donc il y a des rois qui se succèdent les uns aux autres, même si c'est des lignées de villageois. Il y a des généalogies, comme il y a des généalogies de rois. Et donc il nous dit des V, il en reste, voilà. Mais il en reste plus à Chichiliane, il y en a ailleurs. Et bon, moi j'en connais un, voilà, je le vois souvent dans ce coin-là, et voilà le coin en question. D'habitude, enfin quand je l'ai vu, moi, il lisait Gérard de Nerval, Sylvie, C'est un V. Il était, non, il est, enfin, il était à l'école normale de peut-être Valence ou Grenoble. Et dans cet endroit-là, lire Sylvie, c'est assez drôle. Le col de Menet, on le passe dans un tunnel qui est à peu près aussi carrossable qu'une vieille galerie de mine abandonnée. Et le versant du Diwa sur lequel on débouche alors, c'est un chaos de vagues monstrueuses bleues baleines, de giclements noirs qui font fuser des sapins à des, je ne sais pas moi, là-haut. Des glacis de roches d'un mauvais rose ou de ce gris sournois des gros mollusques. Enfin, en terre, l'entrechoquement de ces immenses trappes d'eau sombre qui s'ouvrent sur 8000 mètres de fond dans le barattement des cyclones. C'est pourquoi je dis « Sylvie, là, c'est assez drôle ». Car la ferme qui s'appelle les Chirouzes est non seulement très solitaire, mais manifestement à ses murs bombés, à son toit, à la façon dont les portes et les fenêtres sont cachées entre des arcs boutants énormes, on voit bien qu'elle a peur. Voilà. Sylvie, ce type-là, Sylvie, bon, j'ai beau connaître Sylvie, je vois pas pourquoi Giono nous dit c'est assez drôle. Vous voyez, il répète la référence, il nous dit c'est important, et puis il nous dit pas pourquoi c'est important. Bon, Sylvie, c'est une intrigue extrêmement éthérée sur l'amour. C'est un travail sur le souvenir aussi. Il y a une généalogie de plusieurs filles, comme il y a des généalogies dans le roman de Giono. On peut faire des rapprochements, mais il ne dit pas pourquoi il met cette référence. Donc, il reste elliptique. Bon, la littérature, c'est un usage spécialisé du langage et du souvenir qui incite facilement à l'entre-soi, à l'autoréférence, aux allusions. Donc, il ne faut pas s'étonner de cet usage allusif du discours. C'est le cas de tous les discours spécialisés. Si vous assistez à une discussion entre informaticiens, c'est très manifeste. Mais l'intérêt d'un roi sans divertissement, c'est d'abord d'utiliser ce cryptage qui peut paraître un peu snob pour faire filer la narration. On ne s'attarde pas. Allez voir Sylvie Gérard de Nerval. Moi, je continue mon histoire. Et surtout, ça c'est vraiment très spécifique, d'associer ce genre d'ellipse à un autre qu'on lui oppose généralement, c'est-à-dire la rusticité de la parole villageoise. Il y a d'un côté des références littéraires snobinardes, lisez donc truc, et puis on en reparlera, et de l'autre quoi ? Ben, le témoignage d'Anselmi, vous avez vu, c'est un bon exemple, hein, il faut lui tirer les vers du nez, quand je lui dis que c'est tout, puis en fait, ben, non, elle a un truc à nous raconter. Mais ce type de parole villageoise, c'est pas seulement comme ça dans des situations locales, dans des dialogues restreints. Ce type de parole prend même la responsabilité intégrale de la narration sur de très longues portions du texte. Effectivement, Giono met en place un système de relais narratif qui est assez complexe et qui lui permet d'expliquer comment il a eu accès, lui Giono, narrateur de 1946, à cette histoire pseudo-vraie qui date d'un siècle avant. Il y a eu accès par la mémoire orale, qui se serait transmise de vieux en vieux, à travers tout un siècle. Donc il établit une généalogie de conteurs ruraux, comme il y a des généalogies de rois, mais tout simplement aussi des généalogies de villageois, puisque face à l'ennui, ce sont les mêmes. Un roi sans divertissement est un homme plein de misère, comme les autres hommes. Puisqu'il y a des généalogies de rois, faisons des généalogies de paysans. Le livre s'ouvre sur une généalogie. Les premières phrases sont celles d'un traçage familial. Frédéric à la Syrie sur la route d'Avers. Il y succède à son père, à son grand-père, à son arrière-grand-père, à tous les Frédéric. On s'appelle pareil le père et fils. Et le Frédéric, qui va être mobilisé de façon cruciale comme un des relais narratifs dans l'histoire, est appelé par le narrateur Frédéric II. Ce qui est évidemment aussi une référence au Frédéric II, enfin, celui que l'histoire a retenu, quoi. Et donc, Monsieur V, c'est ce qui nous autoriserait à le lire également comme Monsieur V. Est-ce qu'il n'y a pas une généalogie de tueurs, une sorte de tueur en série, non pas seulement par les victimes, mais par l'ascendance? Mais cette pseudo-transmission depuis les personnages rustiques, elle permet surtout à Giono narrateur d'adopter une rhétorique qui justifie l'ellipse par une psychologie méfiante, une maîtrise partielle du langage. Les personnages le disent eux-mêmes, on parle mal, mais une maîtrise totale du sens du secret. Donc, d'une certaine façon, plutôt que de faire entrer la vie d'un village perdu dans le panthéon littéraire, c'est pas ça que fait Giono. Il n'est pas en train de donner ses lettres de noblesse à la vie rurale. C'est plutôt le mouvement inverse qui se passe. Il me semble que Giono fait entrer le lecteur dans la communauté villageoise. il le soumet à un mode de discours qui est celui que lui, Giono, estime être celui des villages perdus. On parle de façon elliptique, on est des taiseux. Et dans cette communauté, lui-même serait peut-être moins donc snob comme un écrivain de salon que taiseux comme un villageois. Et avant tout, à travers ce procédé de l'ellipse, quelle que soit la manière dont il le mobilise, référence littéraire snob implicite, imitation d'une parole taiseuse, c'est un conteur virtuose qui s'offre même des décrochages dans le système narratif qu'il a mis en place qui sont aussi vertigineux que ce que pourrait faire un trapéziste. Je vous donne une citation que je trouve totalement affolante. Page 127. Qu'est-ce qu'il nous raconte à ce moment-là ? Là, on est dans La Chasse au Loup. Voilà. On est donc dans le deuxième roman du roman. Chasse au Loup, donc extrêmement bien structuré par Langlois, qui distribue des relais de chasse, un système d'instruments pas possible pour se parler de vallée en vallée et pour faire peur à la bête, pour finir par l'acculer contre une paroi rocheuse. Enfin, tout est parfaitement bien orchestré. Et au milieu, voilà ce qu'on lit, page 127. Il y a un saut de page, enfin, un saut de paragraphe, un blanc, comme celui du paysage. On est dans la neige. Où suis-je ? Qu'est-ce qui m'arrive ? C'était un drôle de matin. Tous, plus ou moins, nous nous étions souvent affrontés seuls contre les dessous de la solitude et les bauges. Les endroits où une bête sauvage quelconque défend le peu de chaleur qu'elle a réussi à se faire en se recroquevillant les cuisses sous le ventre. Bon, on reprend la chasse assez vite, hein, mais il commence par nous dire « Où suis-je ? Qu'est-ce qui m'arrive ?» Et là, qui parle ? C'est indéfinissable. On est dans un système de relais narratif super bien bricolé, où il nous fait passer de génération en génération de façon très claire, de façon savoureuse. On sait à peu près à chaque instant qui parle, et puis il y a des moments comme ça, où on est, en fait, on est dans le blanc. Moi, je pense qu'à ce moment-là, la personne qui parle, c'est Perceval, en fait. C'est Perceval sur sa lance, quoi. Où suis-je ? Qu'est-ce qui m'arrive ? C'est le tournoiement, quoi. C'est peut-être l'émotion du sang sur la neige, en fait. Où suis-je ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Alors, cet usage de la parole elliptique inspiré de la parole villageoise, est-ce que c'est un éloge de ce type de communauté ? Sûrement pas. Le fait d'emprunter la parole aux villageois, est-ce que ça consiste à dire « regardez comme ils sont formidables et regardez comme ils parlent bien » ? Non. Sûrement pas, ou je dirais même sûrement plus. C'est-à-dire qu'on est loin des premiers textes lyriques sur la vie rustique. Giono a fait ça. Il a fait l'éloge des communautés villageoises. Il n'en est plus là. Il ne perdra jamais complètement cette veine, hein, cela dit. Même dans Le Hussard sur le Toit, il y a encore de très très beaux moments lyriques sur la vie rustique, qui est une vie pure. Elle l'intéresse pas parce qu'elle serait authentique ou je sais pas quoi, elle l'intéresse parce qu'elle est pure. Dans Un roi sans divertissement, le fait d'emprunter la parole des villageois, c'est faire ça. Les taiseux lui permettent de raconter vite, efficacement, et tout en préservant le mystère. Autrement dit, on n'accède jamais au stade de la satiété. Le fait d'écrire un roman avec la parole des taiseux, c'est un excellent divertissement parce qu'il se prolonge dans le mystère. On n'aura pas le fin mot. On ne sera pas repu. Il me semble que de cette façon, donc, Giono culmine dans le divertissement le plus raffiné, un divertissement qui ne s'arrête jamais, puisque l'intrigue ne se résout pas, et qu'il atteint peut-être ainsi ce que René Char appelait le désir demeurer désir. On n'accède pas au plaisir. On ne jouit jamais, en fait, dans Un roi sans divertissement. On ne jouit pas de la résolution de l'intrigue. Les résolutions sont constamment frustrantes, et le sens métaphysique du suicide de Langlois reste incompréhensible. Autrement dit, on n'élucide pas. On n'a pas la solution. On demeure dans le désir. On cherche, mais on n'élucide pas. On est le prédateur d'une impossible proie. Et ça, c'est le principe de la quête, qui dépasse l'enquête. Giono encapsule son polar, son enquête, dans une quête. Pourquoi est-ce que la quête dépasse l'enquête ? Parce qu'on trouve souvent le criminel, mais beaucoup plus rarement le Graal. Et évidemment, pour que la quête demeure infinie, il faut une présence du mal qui soit tout aussi infinie. Mais ce thème du mal, il prend un tour plus inattendu que ce qu'on dit parfois des textes du Giono d'après-guerre. Donc j'en viens à cette deuxième grande approche de la paroisse en divertissement, la question du mal, pour essayer de vous dire que il ne faudrait pas non plus résumer Giono à ce qu'on en dit parfois, le Giono de la deuxième période, quoi. Le Giono plus noir que bleu, quoi. Il a écrit un texte qui s'appelle Jean le Bleu. Bon, Là, quand on lit ça, c'est genre le noir, clairement, mais c'est pas si simple non plus. Cette noirceur est singulière. La question du mal. Donc effectivement, il faut que je vous dise quelques mots sur Giono II, puisque lui-même fait des généalogies, pourquoi pas en faire une de Giono à Giono. Giono II, un petit peu d'histoire littéraire donc, mais c'est complètement connecté au texte. Hein. Quand il écrit Un roi sans divertissement, Giono a connu des expériences marquantes qui vont l'éloigner dans la vie et dans l'œuvre du Giono bucolique, tel qu'il s'est fait connaître avec Colline, Regain, etc., les premiers textes, quoi. Mais aussi avec Le Chant du Monde, qui est un texte moins caricaturable que ceux que j'ai cités. L'histoire de Giono, c'est celle d'un traumatisé par 14-18. Il est allé au front, il n'a pas rigolé. Il dit qu'il a été, lui, seulement légèrement gazé, ce qui donne vraiment une très bonne idée du genre de choses qui a pu arriver à ses amis, quoi. Enfin, il a vu ses amis se faire dessouder, quoi. Et à partir de là, il a multiplié les engagements comme pacifiste, ce qui est devenu une position sensible qui, associée à, disons, plusieurs imprudences vis-à-vis des Allemands et de Vichy, le fit considérer trop rapidement, mais rien n'est simple dans un sens comme dans l'autre, comme collabo pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça lui vaut 2 emprisonnements de plusieurs mois, hein, c'est pas juste des gardes à vue, quoi. Le premier finit par être acquitté en plus, donc il était emprisonné, voilà, pour qu'on lui fasse peur, quoi. Et à l'issue du conflit, il a été très ostracisé du monde littéraire, quoi. Il a été blacklisté par tous les auteurs de la résistance, quoi. Bon, les choses sont pas simples, hein. Il s'agit pas pour moi de prendre position d'une manière ou d'une autre, là, mais ce qui m'intéresse, là, pour l'instant, c'est que Un roi sans divertissement occupe une position très spéciale dans l'œuvre, puisque c'est le premier texte publié après la Deuxième Guerre mondiale, et donc le premier texte qui met fin à cet ostracisme dont je vous parlais. C'est le retour de Giono au droit de publier. Bon, évidemment, la vie et l'œuvre d'un auteur sont deux choses distinctes, mais elles s'influencent. Et donc il n'est pas étonnant que le premier roman d'après-guerre soit un texte de prédation, déjà. Si la guerre, c'est une forme de chasse entre hommes, comme Quignard et bien d'autres le théorisent. Du coup, la moitié du XIXe siècle qui est évoquée dans Un roi sans divertissement a des résonances avec cette moitié du XXe siècle durant laquelle écrit Giono. Citation sublime, page 13, au moment où il commence vraiment à nous raconter son histoire, après une espèce de mise en bouche qui est immédiatement appétissante. Au moment où il commence à raconter, ça commence comme ça. 43, entre parenthèses, 1800, évidemment. Ce qui est rigolo, c'est le évidemment, quoi. Parce que ce que veut nous dire Giono, c'est que c'est pas évident du tout, en fait. C'est qu'entre 1843, chasse à l'homme, chasse au loup, etc., et 1943, c'est bien le même genre de carnage, en fait. Et qu'un roi sans divertissement reste et demeure un homme plein de misère, quoi. Pas de changement dans le carnage. C'est ça que ça veut nous dire, évidemment, je crois. Il n'est pas étonnant non plus donc que Giono bascule dans une conception pessimiste de l'humanité et même de l'univers dans cette période d'écriture qui est la sienne, et même dans une inversion de certaines valeurs établies. Mais cette conception de l'homme et de l'univers demeure en définitive originale. Je vais essayer de vous amener à ça. Bon, première inversion de valeurs établies, beauté et cruauté. Voilà, c'est pas un mystère, la tradition esthétique occidentale, elle classe traditionnellement le beau et le bien du même côté. On est dans Platon, Aristote, voilà, on est vraiment les héritiers de ces choses, et c'est toujours féroce. Hein. Luc Ferry a publié un truc qui s'appelle Le sens du beau il y a quelques années. Il est platonicien, quoi. C'est Platon écrit dans la langue de la fin du XXe siècle. Le motif tiré de Perceval annonce à lui seul une inversion du rapport, puisqu'il place la beauté dans le sang. Difficile d'associer le sang au bien, sauf peut-être dans la perspective des médecins de Molière. Mais on sait ce que Molière pensait des médecins. Cette inversion, elle se décline à toutes les échelles du roman. La métaphore de Perceval, ça court partout, vous avez compris. Mais l'inversion des valeurs descend jusqu'à l'échelle de la phrase, puisqu'il me semble que les plus belles pages d'Un roi sans divertissement sont traversées par ce qu'on pourrait appeler un lyrisme du mal. Le moment où Giono est le plus lyrique, le moment où son écriture est la plus fleurie, la plus liquide, la plus rythmique, c'est systématiquement pour parler de trucs atroces. Bon, les montagnes qui ressemblent à des mollusques dans le passage sur Sylvie, c'était déjà pas mal. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez, mais les couleurs de cachalot, le barattement des cyclones, enfin c'est l'enfer de Dante, quoi. C'est vraiment pas un endroit qui rigole, quoi. Mais il y a encore, peut-être plus parlant, un peu plus loin, hein, on est toujours dans les débuts du roman, page 22. Donc il y a un type qui réussit à échapper à la prédation de Monsieur V, mais de justesse, quoi. Il se fait enfermer dans un sac, et puis un type le soulève, on sait pas encore que c'est Monsieur V et tout ça, hein, c'est le tout début, donc c'est les premiers enlèvements. Donc le type en réchappe, et non seulement il a eu la peur de sa vie, mais voilà ce qui s'est passé dans sa porcherie, sous l'action de la même personne. Il n'avait pas pu aller jusqu'au sou, donc la bauche, quoi, où d'ailleurs le tumulte continuait. On alla se rendre compte, et là on vit quelque chose d'assez malpropre. Un des cochons était couvert de sang. On n'avait pas essayé de l'égorger, ce qu'on aurait pu comprendre. On l'avait entaillé de partout, de plus de 100 entailles, qui avaient dû être faites avec un couteau tranchant comme un rasoir. La plupart de ces entailles n'étaient pas franches, mais en zigzag, serpentine, en courbe, en arc de cercle, sur toute la peau, très profonde. On les voyait faites avec plaisir. Ça, alors, c'était incompréhensible. Tellement incompréhensible, tellement écœurant. Ravanel frottait la bête avec de la neige, et sur la peau un instant nettoyée, on voyait le suintement du sang réapparaître et dessiner comme les lettres d'un langage barbare, inconnu, tellement menaçant et si directement menaçant que Berg, d'ordinaire si calme et si philosophe, dit « Sacré salaud, il faut que je l'attrape ». Et il alla chercher ses raquettes et son fusil. Bon, voilà, c'est une très belle page, quoi. Et c'est atroce. Alors, curieusement, moi, ce que ça m'évoque, là, c'est que Giono rejoint une tradition à laquelle on l'associe rarement. Une tradition mineure, souvent ostracisée d'ailleurs, qui est clairement celle d'Artaud, en premier lieu, le théâtre de la cruauté. Il y a une beauté dans la cruauté. C'est le plus grand choc esthétique qu'il puisse y avoir. Bataille, et bien avant eux, Sade. Là, on n'a pas affaire à une orgie entre hommes, mais clairement, on a affaire à une scène sadique. On les voyait faites comme avec plaisir, les entailles. Donc c'est un sadisme appliqué à la bête, quoi. Il y a le même genre de scène et le même genre de commentaire qui va se reproduire avec le loup, donc dans le deuxième petit roman. Un matin, on retrouve une bergerie dans un état atroce, quoi. Et ce gros loup qui va devenir le monsieur V de la deuxième partie, visiblement, il a goûté à un peu tout ce qu'il y a dans la bergerie pour s'agacer les dents. Donc par plaisir, quoi. C'est vraiment c'est vraiment deux criminels qui se répondent dos à dos, quoi. Donc beauté et cruauté, première inversion des valeurs gionienne qui manifeste ce traitement du mal. Deuxième inversion, nature et sauvagerie. Giono, c'est quoi? C'est le plus grand auteur de la nature englobante. C'est l'auteur de l'éloge d'une pureté naturelle. C'est, et ça reste, cet auteur. Le Chant du Monde, dont je vous parlais tout à l'heure, c'en est un excellent exemple. Dès son titre, le monde est harmonieux puisqu'il chante. Le monde produit un chant. Ça, c'est Giono avant-guerre. Ce Giono ne disparaîtra jamais totalement. Mais dans Un roi sans divertissement, la nature n'est pas bonne, elle est sauvage. Cela dit, cette sauvagerie, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas anarchique. Il y a toute une organisation de la violence. Et j'irai même plus loin, il y a un rituel. Un rituel de la violence. C'est-à-dire, clairement, à demi-mot, l'une des formes du divertissement, quoi. L'une des manifestations du divertissement dans ce livre, c'est le rituel. On peut se divertir en regardant du sang sur la neige. C'est un divertissement pictural, un divertissement esthétique, au sens vraiment où ça touche les sens. On peut se divertir en remontant une pendule, comme le fait Frédéric II. Il y a une très très belle scène de bricolage d'une pendule un matin. Bon, Frédéric II, ce type qui a la scierie, est très passionné par cette activité très, très, très bien organisée, avec un début, un milieu et une fin. Bon. Et puis on se divertit aussi à travers les rituels. Et le traitement du rituel religieux, du rituel chrétien dans le bouquin est clairement envisagé comme ça, quoi. On ne va pas à la messe pour prier Dieu, on va à la messe pour assister à quelque chose de très organisé, de très flamboyant, qui nous divertit. Monsieur V ne frappe pas la nuit de Noël. Pourquoi? Parce qu'il va voir la messe. Donc il est diverti, c'est bon, il n'a pas besoin de tuer. Exemple très, très parlant, je crois, de cette organisation rituelle de la violence dans la nature, celle qui tourne autour du personnage, oui, je le dis à dessein, du personnage du être. Il y a un arbre qui est une sorte de fil conducteur du roman, une sorte de personnage qui revient en permanence, qui est évoqué donc dès le début, le paragraphe que je vous disais tout à l'heure. Frédéric à la Syrie, etc. C'est juste au virage au-dessus de la Syrie, dans l'épingle à cheveux au bord de la route, il y a là un être, je suis bien persuadé qu'il n'en existe pas de plus beau. C'est l'Apollon Citharède des êtres. Suit une description, première description sublime. Le roman s'ouvre sur la question de la beauté esthétique, quoi. Mais ce être, c'est pas simplement une vision esthétique, c'est à lui tout seul une sorte de prêtre qui organise de la violence. Voilà ce que nous dit Giono. À l'automne, évidemment, et à l'automne, avec ses longs poils cramoisis, ses 1000 bras entrelacés de serpents verts, ses 100 000 mains de feuillage d'or jouant avec des pompons de plumes, des lanières d'oiseaux, des poussières de cristal, il n'était vraiment pas un arbre. Les forêts, assises sur les gradins des montagnes, théâtre, finissaient par le regarder en silence. Il crépitait comme un brasier, il dansait comme seuls savent danser les êtres surnaturels, en multipliant son corps autour de son immobilité. Il ondulait autour de lui-même dans un entortillement d'écharpe, si frémissant, si mordoré, si inlassablement repétri par l'ivresse de son corps, qu'on ne pouvait plus savoir s'il était enraciné par l'encramponnement de prodigieuses racines ou par la vitesse miraculeuse de la pointe de toupie sur laquelle reposent les dieux. Les forêts, assises sur les gradins de l'amphithéâtre des montagnes, dans leur grande toilette sacerdotale, n'osaient plus bouger. Cette virtuosité de beauté hypnotisait comme l'œil des serpents ou le sang des oies sauvages sur la neige. Et tout le long des routes qui montaient ou descendaient vers elle, s'alignait la procession des érables ensanglantés comme des bouchers. Quand on dit que Giono écrit à gros traits, ça fait drôle, quoi. Parce que ça, c'est de la dentelle, quoi. Voilà, donc vous voyez, dans le champ du monde, la nature, c'est une sorte de mer, hein, c'est une mer cosmique, une mer M-E-R-E. Dans Un roi sans divertissement, la nature, c'est un dieu maléfique qui possède des prêtres. Monsieur V, c'est un prêtre de ce dieu. Le être, c'est un prêtre de ce dieu, particulièrement à l'automne, lorsqu'il se colore des couleurs du sang, du sacrifice. Et l'un de ses prêtres, c'est évidemment Langlois, en commandant de Louvetrie. Mais pourtant, il me semble que ce mal qui structure tout le roman, qui le hante, quoi, passe de la nature à l'homme d'une façon spécifique. Nature et sauvagerie, d'accord, mais humanité et sauvagerie, pas tout à fait. C'est trop simple. Et c'est là que Giono reste vraiment très spécial. Effectivement, le mal entre hommes, dans Un roi sans divertissement, il ne prend pas la seule forme de la prédation. Bien au contraire, il y a une autre forme de mal entre hommes, peut-être plus ancienne, et qui explique celle de la prédation. Un certain nombre de personnages se font les porte-parole de cette conception du commerce humain, qui sont réunis par Giono dans la catégorie de ce qu'il appelle les profonds connaisseurs de l'âme humaine. L'expression revient fréquemment. Ces personnages, ce sont le procureur royal, la femme du lieutenant de Louvetrie, qui s'appelle Madame Tim, et surtout un personnage formidable, l'inénarrable Saucisse, qui est une ancienne prostituée de Grenoble, qui tient un café, qu'on appelle le café de la route, au village, et qui constitue même l'un des relais narratifs de l'auteur. C'est le personnage préféré de l'auteur, quoi. Visiblement, il y met toute son affection, quoi. Donc on l'appelle Saucisse parce que de prostituée, elle est devenue très très grosse. Elle a des moustaches qui tiennent dans le vent. Et puis elle a une langue formidable, quoi. Ces profonds connaisseurs de l'âme humaine, Saucisse et les autres, ils délivrent un certain nombre d'enseignements. Ce sont des personnages assez pédagogiques, mais sous une forme qui est souvent aphoristique, cryptée elle aussi, et mal comprise des villageois. C'est eux qui le disent. Giono aime bien que ce soit un peu des idiots. C'est curieux, quoi. Pourtant, il prend vraiment pas les gens de la campagne pour des idiots. Parce que leur sagesse est ailleurs, en fait. C'est pas comme ça que ça se passe. Que dit le procureur, par exemple, sous forme aphoristique ? C'est une phrase vraiment curieuse. Méfiez-vous de la vérité, elle est vraie pour tout le monde. Donc ça revient plusieurs fois. Voilà, c'est Saucisse qui entend ça, parce que... Bon, voilà ce que dit le procureur royal, en tout cas. Et vous voyez, c'est compliqué, puisque c'est discutable. Méfiez-vous de la vérité, elle est vraie pour tout le monde. L'itinéraire de Langlois, c'est justement de devenir un tel connaisseur de l'âme, un profond connaisseur de l'âme humaine, et de ne pas s'en remettre. Il ne se remettra pas de ce qu'il découvre en découvrant ce qu'est l'âme humaine. Autre citation qui fait état comme ça d'un savoir aphoristique sur l'humanité, qui est celle de Langlois, page 158-159. Bon, ça se termine par ça. Il n'y a pas d'étranger. Voilà, phrase définitive. Il n'y a pas d'étranger. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est intégré dans une citation plus longue et qui est mise en italique. Giono utilise beaucoup les italiques dans ce bouquin, généralement pour souligner des trucs qui ont l'air importants mais qu'on ne comprend pas. Donc il appuie. Regardez, c'est important, mais il ne nous dit pas. Quoi. Voilà ce que dit. Il ne nous dit pas clairement. Voilà ce que dit Langlois, donc en italique, à propos de M. V. Il semble qu'il n'y a pas de raison pour nous de commettre des crimes, mais il y a une raison pour lui. Et s'il y a une raison pour lui, nous devons pouvoir la comprendre. Je ne crois pas, moi, qu'un homme puisse être différent des autres hommes au point d'avoir des raisons totalement incompréhensibles. Il n'y a pas d'étranger. Il n'y a pas d'étranger. Comprends-tu ça, ma vieille ? Puisqu'il parle à saucisse. Qu'est-ce que ça veut dire, il n'y a pas d'étranger ? Ça veut dire nous sommes tous pareils, ça veut dire ce criminel n'est pas un monstre. Il n'est pas anormal. Hors de la norme, dans un panier qui ne serait pas le nôtre. Lui, c'est nous. Donc l'empathie existe, c'est ça l'expérience de Langlois, c'est l'empathie. Il va se mettre en empathie avec V, avec Monsieur V, et au sens strict, empathos, souffrir avec, puisqu'il va se mettre à connaître les mêmes tourments que celui qu'il poursuit. L'empathie existe, on peut se reconnaître dans l'autre, on peut comprendre l'autre, ressentir ce qu'il ressent, mais ça n'est pas une amitié constructive. Giono ne désespère pas des relations. Ce que dit Giono, c'est pas être d'accord. Il dit comprendre. Et vous voyez qu'il titille un endroit qui fait mal. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que dans sa conception du mal, Giono ne désespère pas de l'empathie. Il nous dit pas « l'empathie n'existe pas ». Il nous dit pas « nous sommes tous seuls dans nos bulles ». Au contraire, il nous dit « il n'y a pas d'étrangers ». Mais ça n'est pas une bonne nouvelle. Puisque cette absence d'étrangeté fait qu'on accède à une connaissance vertigineuse de l'autre, donc de soi. Le fait que, voilà, que l'homme est susceptible de néant. Il y a une vision du néant, il y a un vertige dans l'empathie. De même que la proie et le prédateur sont des positions échangeables, hein, ce que nous dit Quignard de façon théorique et ce que nous dit Giono de façon narrative. De même que justicier et malfaiteur sont interchangeables, et peut-être même encore davantage, médecin et malade. Ça, c'est une relation qui poursuit Giono également, la relation entre le médecin et le malade. Ce qui me mènerait à vous dire que l'originalité de ce mal entre hommes dont parle Giono, c'est de le concevoir non pas comme un mal moral, mais comme un mal médical. Au sens où un mal, on dit attraper le mal, quoi. Où on dit j'ai pris mal. Ce qui se passe entre hommes, ça n'est pas seulement la prédation, la guerre de tous contre tous, l'homme est un loup pour l'homme, c'est un mal qui se transmet, c'est-à-dire un vertige face au néant. C'est une contamination du néant, en fait. Si vous regardez trop le néant dans l'autre, vous le voyez à l'intérieur de vous-même. Et ça, je ne l'ai pas lu beaucoup. Donc Giono se fait contaminer lui-même par une conception pessimiste de l'humanité, mais c'est une conception pessimiste originale, quoi. Alors ce motif de la contamination, ce motif médical du mal, non pas comme mal moral, mais comme mal médical, il est déjà présent dans Le Chant du Monde, qui termine sur un discours médical très très étrange, et évidemment, il culmine, je crois, dans Le Hussard sur le Toit, qui est un roman du choléra, en fait. Un roman où le mal circule entre les hommes au sens microbien du terme, quoi. Même si, évidemment, ce mal microbien est aussi une métaphore du mal moral, quoi. Voilà, Giono n'est pas juste un type qui nous donne des leçons, quoi. Avec le fait de pointer un mal moral. C'est aussi un type qui nous parle d'affinités entre hommes qui sont très profondes, mais qui, de l'amitié dont il a fait l'éloge pendant des années... a pu tourner à un vertige qui se communique de l'un à l'autre, quoi. Bon, cette conception de l'empathie comme malfaisante, elle m'intéresse, mais ça n'est pas la mienne. Et globalement, la vision de le traitement du mal de Giono n'est pas ce dans quoi je me reconnais le plus à travers ce livre qui, donc, je vous l'annonçais au départ, est crucial pour moi. Effectivement, il me semble qu'en cherchant à sortir des valeurs qui étaient les siennes avant-guerre, au vu de l'expérience qui a été la sienne, Giono, en fait, en reste tributaire. Pourquoi ? Parce qu'il en prend seulement le contre-pied, entre guillemets. Il les inverse. Avant, le monde, c'était l'harmonie, ça devient la sauvagerie. Avant, le beau était bien, là, le beau devient cruel. Bon. Il y a quelque chose de pas apaisé là-dedans. Il y a une approche qui reste presque de l'ordre du ressentiment. Un peu comme chez Sade, d'ailleurs, que j'évoquais tout à l'heure, par rapport à la religion. Sade, c'est quelqu'un qui monte des espèces de rituels religieux inversés, quoi. Mais ça reste du religieux. Et si on compare Sade à Diderot, par exemple, chez Diderot, il y a un apaisement bien différent, quoi. Diderot, c'est quelqu'un qui abandonne la religion tranquillement pour proposer un autre système, quoi. Un système philosophique, ce qui lui permet de le traiter avec humour, etc. Et donc, de ces enseignements, je m'inspire à la recherche d'une voie spécifique, et je voudrais vous rendre compte de ça un petit peu pour finir. Voilà, quelques mots sur l'influence de ce texte sur mes textes, quoi, puisque Giono lui-même se place dans des généalogies d'auteur vers auteur. Je voudrais continuer ce travail, sachant qu'une généalogie, ça passe aussi par pas mal de bâtardises. Qu'est-ce qui m'intéresse dans La Voix sans divertissement ? Quatre choses. Voilà, je les découpe en quatre pour faire vite. La construction de l'intrigue comme rapport de force. Je vous les annonce et puis je vais développer un petit peu pour chaque chose. La conception de l'intrigue comme rapport de force. Le rapport au polar. La sauvagerie. Et puis, et ça on n'en a pas parlé encore, mais il faut absolument que je vous en parle, la mystique. Alors, l'intrigue comme rapport de force, je ne sais pas si vous avez... Quelle édition vous avez du Roi. Celle-là, que je ne connaissais pas, moi. Je suis bien content parce qu'en quatrième de couverture, ce qui m'avait influencé dans la construction de La Voix sans divertissement. Voilà ce que raconte Giono dans la généalogie de son texte, la genèse de son texte. Le livre est parti parfaitement au hasard, sans aucun personnage. Le personnage était l'arbre, le être. Le départ, brusquement, c'est la découverte d'un crime, d'un cadavre qui se trouva dans les branches de cet arbre. Et il y a eu d'abord l'arbre, puis la victime. Nous avons commencé par un être inanimé, suivi d'un cadavre. Le cadavre a suscité l'assassin, tout simplement, et après, l'assassin a suscité le justicier. C'était le roman du justicier que j'avais écrit. C'était celui-là que je voulais écrire, mais en partant d'un arbre qui n'avait rien à faire dans l'histoire. C'est génial d'avoir ce genre de témoignage, quoi. Bon, est-ce que Giono a vraiment fait ça ? C'est pas sûr, quoi. C'est un énorme bobardeur, hein. Il raconte des trucs, mais... c'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'il s'est fait allumer par rapport à son comportement pendant la Seconde Guerre mondiale, quoi. Parce que ce qu'on voulait, c'était des gens clairs, quoi. C'était pas des bobardeurs. Comment il construit son roman ? Comme un rapport de force. Hein. Comme un rapport de poids, presque, on pourrait dire. Il y a un arbre au départ, donc de la vitalité pure, même s'il dit un être inanimé, ce qui l'intéresse, c'est la vitalité. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il met un cadavre dans la vitalité pure. Voilà, il équilibre. On ne peut pas juste faire un bouquin, il le dit, on ne peut pas juste faire un bouquin sur un arbre très beau. C'est formidable, mais on ne peut pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On crée un rapport de force. Et ce rapport de force, il passe du très vivant au très mort. Donc, il met un cadavre, littéralement, dans l'arbre. Quoi. Ça a l'air simple, hein, écrire un roman. Il y a un arbre, bon, il est beau l'arbre, en plus c'est un arbre que Giono voit tous les jours. Hein. Il y a un être magnifique, le être en plus, l'être, bon, qu'est-ce que je fais ? Je mets du néant dedans. Bon, voilà, très bien. Bon, à partir de là, qu'est-ce qui se passe ? Bon, alors puisqu'il y a un mort, il faut un criminel. Puisqu'il y a un criminel, il faut un justicier. Puis en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Le justicier va devenir lui-même criminel, quoi. Voilà, c'est ça, hein, son divertissement. Bon. Alors ça m'avait beaucoup plu parce que ça paraissait vraiment simple. Et quand on vous dit roman, on a tellement l'impression qu'on est juste en dessous du niveau du ciel, que ça fait du bien quand il y a des gens qui vous expliquent les choses comme ça, quoi. Même si c'est pas vrai. Et en fait, ce truc-là m'a hanté pendant longtemps. Et le roman dont vous parlez, Dominique, tout à l'heure, Nouveaux Indiens, s'est construit sur le même genre de rapport de force. J'ai clairement calqué le truc de Giono, quoi. Donc j'ai pas repris les mêmes personnages, mais j'ai repris les mêmes rapports. entre les personnages. C'est-à-dire que le Nouveaux Indiens, c'est l'histoire personnage qui fait un usage maléfique de sa bouche, à savoir qu'il mange quelqu'un d'autre. C'est un roman sur l'appétit. Et face à ce personnage cannibale, donc qui fait un usage maléfique de ce qu'on fait rentrer dans la bouche, il fallait un personnage de raconteur qui fasse un usage bénéfique de ce qui en sort. Voilà. Donc, en fait, ça justifiait le fait de raconter, c'est-à-dire de faire sortir de sa bouche quelque chose, que d'avoir un personnage qui y fait rentrer quelque chose de maléfique. Donc c'est exactement le même rapport, quoi, entre puissance vitale et puissance mortifère, en fait. Ce truc-là m'avait vraiment paru à la fois bah, puissant, et tel que Giono en parlait, et très fonctionnel, quoi. Ça avait l'air simple de dérouler une intrigue après comme ça. Et effectivement, c'est à peu près ce qui s'est passé. Une fois qu'il y avait ça, bah, les autres personnages sont venus autour, quoi, parce qu'il faut des espèces de béquilles pour porter ce truc-là. Donc voilà, ça c'est vraiment un aspect qui a été important pour moi pour dénouer l'écriture d'une forme un peu longue, disons, quoi. Nouveaux Indiens, c'est pas un roman qui est très long, mais c'est un roman, quoi. C'est plus une nouvelle, c'est plus un long poème, c'est un roman, quoi. Et ça a été vraiment salvateur, ce truc. Et à partir de là, ce qui me permettait de là aussi d'orienter ce matériau à partir du rapport de force entre puissance vitale et puissance mortifère, c'est le rapport, disons comme ça, le rapport dégagé au polar qu'entretient Giono surtout dans la première partie du bouquin, puisque Nouveaux Indiens, c'est un faux polar aussi. C'est un texte qui reprend le code du polar pour en faire autre chose, pour le conduire vers la quête, justement, en fait. Pas seulement l'enquête, mais la quête. Et ce qui m'avait plu chez Giono, c'était que son traitement du polar, donc qui est un traitement détaché, un traitement de quelqu'un qui veut faire autre chose qu'un polar avec son polar, c'était en même temps un traitement qui n'était pas ironique. C'est-à-dire que Giono n'est pas en train de se moquer du genre ou de dire « Ah, regardez, je fais un polar, mais pas vraiment, etc. » Non, il fait un vrai polar. Un polar rural, mais c'est un vrai polar, quoi. Il y a des indices, il y a un enquêteur, il y a des victimes, il y a tout le matériel, quoi. Tout est là, il le fait bien, il le fait sérieusement. Donc, ça aussi, c'était très rassurant pour orienter une intrigue, d'avoir un fil conducteur aussi solide et aussi haletant que celui du polar. Ça fonctionnait bien, quoi. Bon, mais ça, je dirais, les deux choses dont je vous ai parlé pour l'instant, c'est de l'ordre de l'outil, quoi. Je voulais monter un bon outil pour porter des choses. Mais c'est pas ce qui comptait le plus. Ce qui comptait le plus, c'était les choses à porter. Ces deux choses, c'était quoi ? Ben, c'est la sauvagerie et c'est la mystique, quoi. La sauvagerie, ça m'intéresse. Donc, vous aurez compris, dans Nouveaux Indiens, voilà, il y a un rapport au cannibalisme qui tire de ce côté-là. Mais au fond, ce qui m'embête avec Giono et ce qui m'embête avec Nouveaux Indiens aujourd'hui, même si, voilà, je nie pas ce texte, c'est que je reste encore tributaire d'une conception axiologique de la sauvagerie, c'est-à-dire en termes de bien ou de mal. Voilà, Giono, la sauvagerie, c'est le mal, clairement. Le cannibalisme entre hommes, j'aurais du mal à vous défendre que ce soit autre chose que ça, quoi. Et pourtant, il y a une sauvagerie qui n'est pas forcément celle du mal, quoi. La nature, elle est sauvage, mais elle ne se pose pas des questions de bien ou de mal, justement. C'est ça qui m'intéresse. Et il me semble que l'une des évolutions de l'écriture de Nouveaux Indiens à celui que je suis en train de finir, donc qui s'appelle Seconde Nature pour l'instant, c'est de parler d'une sauvagerie qui est neutre, qui n'est pas bonne ou mauvaise, en fait. Dans Seconde Nature, il y a un personnage qui est investi par une force sauvage, au sens où il y a une plante qui lui pousse dans le corps. Donc il y a quelque chose de sauvage qui pousse à travers lui. Mais cette sauvagerie, c'est ni le bien ni le mal, en fait. C'est juste vital, en fait. Il y a une vitalité qui échappe à la morale, qui n'est pas sanctionnée par une morale. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se développer et qui a bougé depuis Nouveaux Indiens, quoi. J'ai plus besoin de parler de la sauvagerie en termes de mal. Donc avec le frémissement que ça suppose, le frisson, le côté transgressif aussi, quoi. Et puis la dernière chose, bah, c'est la mystique. Alors là, il faut qu'on s'entende, parce que voilà, je parle pas forcément d'une mystique religieuse. La mystique, je la définis comme une sortie de soi. Donc ça peut être une sortie de soi dans Dieu, hein, ça a longtemps été la destination. mais c'est pas la seule destination possible pour une mystique. Que fait l'angoisse en se suicidant? C'est un acte mystique, littéralement. Voilà ce que dit Giono, et il pèse ses mots, il sait très bien ce que c'est que la mystique. Donc au moment de l'explosion, et il y eut au fond du jardin l'énorme éclaboussement d'or qui éclairait la nuit pendant une seconde, c'était la tête de Langlois qui prenait enfin les dimensions de l'univers. Donc le suicide de Langlois, c'est ça, c'est pas une élimination de soi seulement, c'est pas un acte mortifère seulement, c'est le fait de se perdre dans l'immensité, quoi. Voilà. Donc Jean de la Croix, ça dit la même chose, Thérèse d'Avila, ça dit la même chose, avec d'autres termes. Pour moi. Giono, c'est l'univers, c'est pas Dieu. Giono nous dit dans Noé, je suis un contemplatif. Donc il sait très bien ce que c'est que la mystique, quoi. Mais pour lui, c'est plutôt une sorte de mystique matérielle. Moi, ce que j'ai essayé de faire avec Nouveaux Indiens et avec Seconde Nature, il y a un air de famille avec ça. Dans Seconde Nature, c'est encore plus clair puisque la sortie de soi, elle est littérale, quoi. Elle est dans le corps du personnage. Il est investi par une force qui l'ouvre. Et qui l'ouvre à autre chose que son espèce. Il sort de son espèce. Non seulement il sort de lui-même, mais il passe à autre chose que l'humain, quoi. Donc, ça peut prendre un tour qui a l'air comme ça, de relever de la science-fiction, je sais pas quoi, mais ce qui m'intéresse avec ça, c'est la sortie, en fait. C'est la perte dans autre chose que soi. Qui est une perte matérielle, en plus, là. Qui passe par de la matière, pas par du spirituel ou par de l'élimination du corps. Donc il me semble qu'en fait, sur Giono et sur cette question de la mystique, l'exergue très mystérieuse qu'il met au départ, en fait, est finalement assez claire, puisque ce qu'il nous dit, c'est ça. Si vous m'envoyez votre cornemuse et toutes les autres petites pièces qui en dépendent, je les arrangerai moi-même et jouerai quelques airs bien tristes, bien adaptés, puis-je dire, à ma pénible situation de prisonnier. Lettre de Odel Reiki, donc c'est une référence qui n'existe pas, hein, c'est le premier mensonge du bouquin. Lettre de Odel Reiki, on ne sait pas ce que c'est inventé par Giono. Mais ce dont il parle, c'est de ma pénible situation de prisonnier. Voilà le point de départ, et le point d'arrivée, c'est Langlois qui sort de sa situation de prisonnier, qui sort de la cellule, qui sort du crâne, de la cage. Donc ça passe par un truc violent, ça passe par un truc transgressif, tout ce que vous voulez, mais ce qui l'intéresse, c'est ça, c'est la sortie, c'est la mystique.